Vous êtes bien sur Radio Orient, voici votre magazine d'information avec Wallis Glaise. Le Canada souhaite reconnaître l'État de Palestine en septembre prochain. C'est une annonce du Premier ministre canadien. Les autorités libanaises sont déterminées à désarmer le Hezbollah. C'est ce qu'a dit aujourd'hui le président Joseph Aoun. Un Français sur cinq jette encore ses déchets par la fenêtre selon une étude. Mais alors, quels sont les déchets les plus jetés? Réponse dans cette édition. Bienvenue dans votre magazine d'information. Nous commencerons par le point sur l'actualité et enfin nous développerons les dossiers du jour. Dans notre point avec l'actualité, le Canada qui prévoit de reconnaître l'État de Palestine en septembre à l'Organisation des Nations Unies. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le Premier ministre canadien. Un changement de politique salué par la France mais aussitôt condamné vigoureusement par Israël. En franchissant le pas de la reconnaissance, le Canada est motivé par une conviction de longue date, je cite, en faveur d'une solution à deux États pour mettre fin au conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies, a justifié son premier ministre. Et on l'a appris aujourd'hui, le gouvernement du Portugal va consulter le président et le parlement en vue d'une reconnaissance aussi de l'État de Palestine en septembre à l'ONU. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le cabinet du premier ministre portugais dans un communiqué. Gaza, toujours la défense civile de la bande de Gaza, a annoncé qu'au moins 30 Palestiniens ont été tués par des tirs de l'armée israélienne, tandis que plus de 300 autres ont été blessés alors qu'ils attendaient l'arrivée de camions d'aide humanitaire au nord de la ville de Gaza. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, lui, a souligné la nécessité de garantir la poursuite de l'acheminement de l'aide médicale vers la bande de Gaza. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a demandé au premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, lors d'un appel téléphonique, de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza pleinement et sans entrave, selon Rome. Le ministre syrien des Affaires étrangères, accompagné de sa délégation, est en Russie pour tenir des discussions avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, selon l'agence de presse officielle syrienne Sana. A noter qu'en février dernier, le président russe Vladimir Poutine avait eu déjà un entretien téléphonique avec le président syrien, lui souhaitant plein succès dans la réalisation des missions qui lui incombe au service du peuple syrien. Le djihadiste suédois Osama Krayem, déjà condamné pour les attentats de Paris et Bruxelles, a écopé d'une peine de prison à perpétuité pour sa participation à l'assassinat d'un pilote jordanien brûlé vif dans une cage par le groupe État islamique en Syrie. Bruxelles, la Commission européenne a annoncé que 18 pays ont soumis des demandes de prêts d'un montant total de 127 milliards d'euros dans le cadre d'un instrument visant à renforcer les capacités de défense du continent européen. En France, plus précisément en Corse, un petit train touristique s'est renversé lors d'un accident de circulation survenu à Ajaccio. Aujourd'hui, 58 passagers se trouvaient à bord du train et 43 personnes ont été impliquées dans l'accident, dont 4 ont été gravement blessés. L'accident s'est produit en toute fin de matinée dans le secteur de Santa Lina sur la route des Sanguinaires. En France, toujours, une femme de 59 ans employée comme assistante maternelle dans une école de Vic-la-Gardiole depuis octobre 2024 a fait savoir le procureur de la République a été suspendue de son poste et placée en détention provisoire pour des faits d'agression sur mineurs. Et puis enfin, les États-Unis, la réserve fédérale américaine a maintenu ses taux d'intérêt inchangés pour la 5e fois consécutive, défiant ainsi les fortes pressions politiques du président Donald Trump, malgré l'opposition de 2 membres du Conseil souhaitant une baisse des taux. Trump a également annoncé la conclusion d'un accord commercial avec la Corée du Sud, prévoyant des droits de douane de 15% sur les importations de produits sud-coréens aux États-Unis. C'est la fin de votre point d'actualité. Place à présent aux principaux dossier de votre magazine. Le Canada emboîte le pas à la France et au Royaume-Uni. Il prévoit en effet de reconnaître l'État de Palestine en septembre à l'ONU. Un virage diplomatique salué par certains mais qui suscite déjà de vives réactions, notamment d'Israël. Nadia Bencher.
C'est une annonce lourde de symboles faite à Ottawa par le Premier ministre canadien Mark Carney. Le Canada, a-t-il déclaré, reconnaîtra l'État de Palestine lors de la 80e Assemblée générale des Nations unies. Un geste fort motivé selon lui par le niveau de souffrance humaine intolérable à Gaza et l'érosion, je cite, de la possibilité d'une solution à deux États. Pour Carney, cette reconnaissance repose aussi sur l'engagement de l'OTAN. L'autorité palestinienne a mené des réformes. Mahmoud Abbas a promis des élections générales en 2026 et une démilitarisation de l'État palestinien. Le président palestinien a salué une décision courageuse qui, selon lui, arrive à un moment critique. Mais cette annonce n'a pas tardé à faire réagir Israël. L'ambassade israélienne à Ottawa dénonce une campagne de pression internationale déformée, accusant le Canada de renforcer le Hamas et de nuire aux efforts de cesser le feu. Le ministère israélien des Affaires étrangères fustige une décision qui, selon lui, compromet la libération des otages. Le président américain Donald Trump a lui aussi critiqué la position canadienne, laissant entendre que cela pourrait compliquer les négociations commerciales entre Washington et Ottawa. Le Canada devient ainsi le troisième membre du G7 à annoncer une reconnaissance de l'État de Palestine après la France et le Royaume-Uni. Un front diplomatique en train de se dessiner alors que la situation humanitaire à Gaza s'aggrave. Pour Mark Carney, la diplomatie classique a échoué. Il appelle à une nouvelle dynamique pour sauver la paix, dénonçant à la fois le terrorisme du Hamas et l'incapacité d'Israël à prévenir une catastrophe humanitaire.
Les autorités libanaises déterminées à désarmer le Hezbollah, c'est ce qu'a dit aujourd'hui le président Joseph Aoun. Hier, le chef de cette formation avait affirmé que demander son désarmement servait le projet israélien. Loïc Barrière.
C'est à l'occasion de la fête de l'armée que Joseph Aoun a réaffirmé l'intention des autorités de retirer les armes de tous les groupes armés, y compris le Hezbollah, et de les remettre à l'armée libanaise. Dans un discours tenu devant les militaires, le chef de l'État a appelé tous les partis politiques à saisir une occasion historique pour que l'armée et les forces de sécurité aient le monopole des armes sur l'ensemble du territoire libanais, afin de regagner la confiance de la communauté internationale. Le président Aoun a souligné que le Liban traverse une phase cruciale qui ne tolère aucune provocation de quelque côté que ce soit, ni aucune surenchère nuisible et inutile. Une volonté assumée de restaurer la souveraineté du Liban sur tout son territoire, au lendemain d'un discours tenu par le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a souligné mercredi que toute demande de désarmer son mouvement revenait à servir le projet israélien. Le chef du Hezbollah a par ailleurs accusé l'émissaire américain Tom Barrack d'utiliser la menace et l'intimidation, un discours prononcé à l'occasion du premier anniversaire de l'assassinat du commandant du Hezbollah, Fouad Chokor, tué le 30 juillet 2024 dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth.
Loïc Barrière. 12 ans après les attaques chimiques meurtrières dans la Ghouta en Syrie, la justice française remet Bachar al-Assad dans sa ligne de mire. Le parquet national antiterroriste a requis vendredi dernier un nouveau mandat d'arrêt international pour complicité de crimes contre l'humanité et crimes de guerre après l'annulation d'un précédent mandat pour cause d'immunité. L'ex-président syrien, désormais en exil en Russie, n'est plus protégé par le statut de chef d'État depuis la chute de son régime en décembre dernier. Que peut-on alors attendre la société civile syrienne de ses avancées judiciaires? Réponse avec Salam Kawakibi, chercheur en sciences politiques.
Déjà la vérité, parce que vous savez, jusqu'à nos jours, il y a des gens qui doutent de la véracité de ces accusations. Il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui, parmi la population syrienne, c'est une toute minorité, mais parmi la population arabe, malheureusement c'est une plus grande majorité, qui doute que Assad a commis ces horreurs en 2013. Et ils accusent même l'opposition d'avoir tué les siens pour attirer l'intérêt de la communauté internationale. Alors si le procès aura lieu, et j'espère, même sans la présence de l'accusé principal, le débat et toutes les informations qui vont circuler durant le procès vont être d'une plus grande importance pour l'opinion publique mondiale.
Des propos recueillis par Nadia Bencher. La pétition citoyenne contre la loi Duplomb a dépassé cette semaine les 2 millions de signataires. Réaction de David Béliard, adjoint à la mairie de Paris et candidat écologiste aux élections municipales à Paris.
On voit qu'il y a là une certaine force citoyenne. 2 millions de signataires, c'est extraordinaire. C'est l'une des pétitions les plus signées. En France, c'était, je crois, la deuxième pétition la plus signée en France. 2 millions de personnes qui disent quoi ? Qui disent qu'ils ne veulent pas de pesticides dans leur assiette, qu'ils veulent préserver leur santé, qu'ils veulent plus d'écologie, qu'ils veulent un autre type d'agriculture qui est aujourd'hui dominé par des lobbies. Et surtout, que nous disent ces 2 millions de personnes ? Eh bien que ces décisions, qui sont des décisions essentielles, mais ne peuvent pas être décidées dans un petit entre-soi au Parlement, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, avec des élus qui sont intimement liés avec les lobbies, et en particulier les lobbies de la chaîne agroalimentaire, l'agro-business, comme on dit, et des lobbies de la chimie. Donc tout ça me fait dire que oui, il y a une véritable aspiration aujourd'hui citoyenne, malgré tout ce qu'on dit, tout ce qu'on entend depuis des mois et des mois et des années pour plus d'écologie, plus de santé. Maintenant, c'est à Emmanuel Macron, c'est au Parlement, eh bien, de prendre des décisions qui sont les bonnes décisions pour notre santé et pour la biodiversité. La bonne décision pour moi, c'est de ne pas promulguer cette loi, c'est d'abandonner la loi Duplomb et enfin de revenir à des alternatives qui sont des alternatives plus respectueuses à la fois de notre santé et des écosystèmes.
C'était David Béliard, adjoint à la mairie de Paris et candidat écologiste aux élections municipales à Paris, au micro de Loïc Barrière. Alors que les départs en vacances battent leur plein, une étude de la Fondation 26 Autoroutes relève que les incivilités sur la route persistent. En 2025, plus d'un Français sur 5 admet encore jeter ses déchets par la fenêtre de sa voiture, en comportement en baisse, mais toujours préoccupant. C'est un geste qui paraît anodin pour certains, mais qui a de lourdes conséquences. Selon la 11e enquête de la Fondation 26 Autoroutes réalisée par Ipsos, 22% des Français ont encore leurs déchets par la fenêtre. Arthur Claude Savoie.
Et oui, Wallis, vous l'avez dit, c'est un geste qui paraît anodin pour certains, mais qui a de lourdes conséquences. 22% des Français jettent encore leurs déchets par la fenêtre de leur voiture, bien que ce chiffre ait diminué de 5 points par rapport à 2024. Il reste tout de même inquiétant, notamment en période de grand trafic, où les vacanciers se croisent sur les routes entre départ et retour de vacances.
Mais alors, quels sont les déchets les plus jetés, Arthur ?
Eh ben, les déchets les plus jetés, Wallis, ce sont les déchets organiques. Alors, c'est-à-dire que ce sont tous les déchets qui viennent du vivant ou qui peuvent se décomposer naturellement. Par exemple, les tronçons de pommes, les peaux de bananes, etc. En deuxième position, ce sont les mégots de cigarettes, suivis des emballages et des bouteilles en plastique. Alors, si les jeunes de moins de 35 ans sont encore le plus concernés, 28% d'entre eux reconnaissent ce geste et l'étude montre une amélioration globale des comportements.
Et donc une amélioration globale du comportement, mais est-ce que les sanctions sont suffisamment dissuasives ?
Eh ben Wallis, peut-être que certains de nos auditeurs ne le savent pas, mais selon l'article R635-8 du Code pénal, jeter un déchet, que ce soit un papier, un emballage ou un mégot, depuis une voiture, est passible d'une amende de 135 € si elle est payée dans les 45 jours. Pour beaucoup, c'est l'exemple... clarité qui reste la clé. 65% des personnes interrogées affirment avoir été sensibilisées par leurs parents dès le plus jeune âge. Un signal encourageant pour l'avenir, même si pour Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation, elle rappelle que le chiffre reste trop élevé malgré une baisse progressive chaque année. En conclusion, les signes d'amélioration apparaissent, mais le problème reste visible au quotidien.
Merci beaucoup Arthur Claude Savoie. C'est la fin de notre édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. C'était Wallis Glaise. Merci à Raymond pour la réalisation. On se retrouve demain. Excellente suite des programmes.